L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Assistante sociale, correspondante de presse, engagée dans la réserve citoyenne de la gendarmerie de l'Ain, déléguée du procureur.
Attends, ça va trop vite, là. Et puis, délégué du procureur, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
C'est vrai, tu as raison. On n'entend pas souvent parler de ce rôle. Les délégués du procureur sont souvent des acteurs discrets du monde de la justice. Leur mission, c'est de mettre en œuvre des alternatives aux poursuites judiciaires proposées par le parquet.
Mais alors concrètement, ça évite de passer par le tribunal.
Oui, c'est ça. En cas d'infraction de faible gravité et reconnue par les auteurs, le procureur de la République peut saisir ses délégués du procureur pour exécuter certaines de ses missions sous son contrôle. Mais tu vas voir, on a rencontré Josette Besset. Elle est l'une des déléguée du procureur à Bourg-en-Bresse. Elle a d'ailleurs reçu récemment le grade de lieutenant-colonel et cela nous a interpellés. Elle nous raconte ce rôle, mais aussi tous les autres.
On la retrouve après les brèves. L'un dans l'autre, les brèves.
Lutte contre le dépérissement forestier.
Le 7 mars, à Châtillon-Michaille, un drone a été utilisé pour disperser des graines d'arbres. Une première en France. L'objectif, renouveler les forêts et lutter contre leur dépérissement. L'opération a été menée par la coopérative Coforêt. Face aux sécheresses et à la prolifération des scolytes qui ravagent les épicéas du Haut-Bugey, cette technique innovante pourrait offrir une solution d'avenir. L'ONF, en alerte depuis 2018, cherche des stratégies pour préserver la biodiversité et l'économie forestière.
Bugey, opposition à l'implantation des deux EPR.
EDF prévoit d'implanter deux réacteurs nucléaires EPR2 sur 220 hectares près de la centrale de Bugey existante. Le projet suscite une forte opposition de la part de militants antinucléaires et d'agriculteurs inquiets pour l'avenir des terres cultivables et les impacts environnementaux. Parmi eux, une institutrice et propriétaire d'une parcelle concernée refuse de vendre. Soutenue par plusieurs associations et élus locaux, elle dénonce un débat public biaisé, estimant que la décision est déjà prise malgré la consultation en cours jusqu'au 15 mai. Les opposants alertent aussi sur les risques liés à la consommation d'eau du Rhône et à la sûreté du site situé en aval du barrage de Vouglans. Malgré les promesses d'emploi et de retombées économiques, la contestation s'organise pour retarder, voire empêcher le projet. EDF prévoit cependant les premières expropriations dès 2027.
Semaine nationale de la petite enfance, ateliers et spectacles à partager.
Du 22 au 29 mars, les structures Petite Enfance de Grand-Bourg Agglomération célèbrent la Semaine nationale de la petite enfance avec des animations gratuites pour les enfants de moins de 4 ans et leurs parents. Samedi 22 mars, deux rendez-vous sont au programme. Une matinée jeux, ateliers et expositions au multi-accueil à Petit Pas de Montrevel en Bresse, de 9h à midi en accès libre. Et à Césaria, le spectacle sensoriel « Chute, mes mains racontent » proposera deux séances, l'une à 10h, l'autre à 11h. Samedi 29 mars, place à l'humour et à la réflexion sur la parentalité avec « Quelle famille ?», un spectacle interactif à découvrir dès 6 ans à 16h30 à la salle du foyer de Saint-Étienne-du-Bois. Infos et inscriptions auprès de Grand-Bourg Agglomération.
Semaine internationale des forêts au musée du Bugey Valromey.
Du 15 au 23 mars, le musée de Lochieux célèbre la Journée internationale des forêts avec une programmation familiale mêlant contes, ateliers sensoriels et découvertes artistiques. Les 19 et 22 mars, à 10h et 11h, les enfants entre 6 mois et 5 ans pourront expérimenter la nature avec l'atelier sensoriel Lumière du sous-bois.
Le dimanche 23 mars à 15h, une visite guidée dévoilera la plus grande collection de France de tournages d'art sur bois.
Tout au long de la semaine, des espaces d'exploration libres permettront aux enfants de 1 à 5 ans de manipuler et découvrir le bois sous toutes ses formes. Pour réserver, écrivez à musée.bugey@1.fr. L'un dans l'autre, l'interview.
Josette Besset a une retraite dynamique, c'est le moins que l'on puisse dire. De correspondante de presse à bénévole chez la VEMA, engagée contre la lutte du cancer, aussi grand-mère et surtout déléguée du procureur. Elle a dernièrement reçu le grade de lieutenant-colonel dans le cadre de son engagement dans la réserve citoyenne. Son parcours, notamment dans le monde de la justice, elle nous en parle. Bonjour Josette.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez définir vos différents rôles aujourd'hui ? On sait que vous faites plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, bien sûr. Après une carrière dans la gendarmerie de 26 ans, j'ai été sollicitée par la direction de la VEMA pour poursuivre mon activité en tant que déléguée du procureur.
Alors, déléguée du procureur, ça veut dire quoi ?
Alors, déléguée du procureur, ça veut dire que le tribunal nous fait prêter serment pour assurer des mesures. Alors, ce sont des mesures principalement d'alternatives aux poursuites. Et dans ce cadre-là, donc, je réalise des médiations, que ce soit des médiations de voisinage, de couples de moins en moins, puisqu'elles sont maintenant, depuis les nouvelles lois, directement traitées par le tribunal. Et je réalise aussi des médiations d'urbanisme par rapport à des litiges entre des mairies. Voilà. Donc ça, c'est une partie de mon activité en tant que déléguée. La deuxième partie, je réalise des enquêtes de personnalité. Donc ça peut être des enquêtes sociales rapides quand les personnes qui font un délit sont présentées au procureur de la République. Et là, les magistrats ont besoin de savoir un petit peu quelle est la situation sociale et professionnelle du prévenu à ce moment-là. Donc ça, c'est des enquêtes sous forme de permanence. On est de permanence, une fois tous les 15 jours. Je le suis une fois tous les 15 jours et un week-end par mois. Et je suis appelée à l'instant T quand la personne est présentée au parquet. Soit je fais aussi des enquêtes beaucoup plus approfondies de personnalité pour les cours d'assises, enfin pour les juges d'instruction à destination des cours d'assises, pour que les jurés et les membres de la cour criminelle, quand c'est en cour criminelle, puissent connaître de manière plus approfondie la situation des gens. Donc là, je suis amenée à contacter l'entourage, l'employeur. Je ne contacte pas les victimes, par contre, puisqu'on ne peut pas être d'un côté et de l'autre. Voilà.
Toutes ces différentes missions, elles s'enclenchent une fois quand même qu'il y a eu un dépôt de plainte.
Ah oui, oui, c'est après.
Est-ce qu'on peut rappeler peut-être à nos auditeurs, auditrices, un tout petit peu le schéma ? Quelqu'un pose un dépôt de plainte, qu'est-ce qui peut s'enclencher ?
Alors, déjà au niveau des plaintes, il faut bien préciser qu'on peut déposer plainte. Alors maintenant, ça peut se faire en ligne, entre parenthèses. On peut déposer plainte et les forces de police, que ce soit police ou gendarmerie, ne peuvent pas refuser la plainte. Si la plainte est refusée, la personne peut écrire directement au procureur de la République. Quand donc la plainte est déposée, les forces de police transmettent au parquet. Et là, il y a une orientation qui est faite suivant qu'il s'agit de contravention, de délit ou de crime. S'il s'agit de contravention, c'est transmis au tribunal de police. Si ce sont des crimes et des délits, c'est soit une mesure d'alternative aux poursuites, soit une présentation au tribunal correctionnel, soit après une évolution vers la cour d'assises si c'est quelque chose de beaucoup plus grave.
Est-ce qu'on peut rappeler simplement ce que c'est que le parquet aussi ?
Alors le parquet, c'est le représentant de la loi. C'est le parquet qui assure au nom de l'État que la loi soit correctement respectée.
Et donc vous êtes en lien avec le parquet en tant que délégué du procureur ?
Alors c'est le parquet, dans les missions que j'assure, c'est le parquet qui les confie à la VEMA. Oui, bien sûr, je suis en lien avec les parquetiers, le procureur, Madame Malara, et ses substituts.
Donc justement, vous citez la VEMA, vous êtes délégué du procureur, engagé via l'association la VEMA.
Oui, parce qu'il y a deux types de délégués du procureur. Il y en a qui sont indépendants. Bon, ils sont très peu nombreux. Et la grande majorité de ceux qui sont présents actuellement, qui assurent des mesures, sont dans le cadre de la VEMA. On a à peu près une quinzaine.
Quels moyens vous disposez pour vos différentes enquêtes ? Vous avez dit qu'il y avait deux types d'enquêtes. Par exemple, pour les enquêtes de personnalité, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de votre métier ?
Au tribunal, quand je suis convoquée dans le cadre des permanences, très souvent, c'est du déclaratif. On a très peu de temps pour vérifier ce que le prévenu va indiquer. Bon, il arrive qu'on vérifie si l'employeur, si on peut le joindre, la famille, si par exemple c'est une éviction de conjoint violent, on vérifie le lieu où la personne peut aller résider en attendant d'être jugée. Voilà. Mais par contre, le plus gros travail, c'est effectivement les enquêtes de cour d'assises, les enquêtes de personnalité. Donc, elles me sont confiées par le juge d'instruction. Là, c'est un juge d'instruction qui est saisi de l'affaire et qui décide d'une enquête de personnalité. Donc, à moi d'essayer d'avoir le plus d'informations sur l'histoire familiale. On repart de l'enfance, en fait. L'histoire familiale, comment la personne s'est insérée dans la vie sur le plan conjugal, professionnel, quel a été son parcours scolaire, professionnel. Est-ce que cette personne a des problèmes de santé? Est-ce que y a eu des mesures, par exemple, dans l'enfance, de suivi par des services sociaux? En fait, c'est pour essayer de dégager le qu'est-ce qui aurait pu amener à la situation dans laquelle il se trouve. Oui, disons, de par mes diverses formations, j'essaye d'analyser l'histoire de la personne. Si, par exemple, elle n'arrive pas à résister aux frustrations qui peuvent lui faire commettre des violences, des actes et tout, c'est peut-être parce qu'à un moment donné de sa vie, la loi n'a pas été posée.
Il y a après... Le cadre, un cadre.
Oui, il n'y a pas suffisamment de cadre. Il y a tout ce qui est lié aussi à l'affectif. C'est compliqué, l'affectif, quand on n'en a pas eu. Comment on peut être modèle soi-même et dans certains cas, alors c'est plus ma formation psychologique qui vous en parle, dans certains cas, on s'aperçoit que si la personne arrive à avoir une vie sociale et tout, quelque part, au niveau de son affectif, elle est restée un tout petit enfant, quoi.
Alors justement, vous êtes souvent en contact avec des auteurs présumés ou des détenus ou les personnes que vous venez de décrire. Comment on prend de la distance avec tout ça? Comment on reste dans la vie professionnelle?
Je dirais qu'il y a l'expérience de l'âge aussi qui aide quand même. Mais ce qui est quand même important à dire, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec son bon cœur. Si on fait ces métiers-là, c'est parce qu'on aime les autres. Mais par contre, ça ne suffit pas. On ne peut pas... s'il y a des formations de travailleurs sociaux, de psychologie, de tout ça, c'est parce qu'il faut arriver à prendre du recul sans se faire envahir par les gens. Il y a forcément des situations qui nous touchent, parce qu'il y a des situations qui nous renvoient à nos blessures personnelles aussi. On a tous des blessures personnelles, donc forcément, il y a des situations qui nous touchent. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elles soient envahissantes. Parce que ça peut pas fonctionner.
C'est la question de l'empathie.
Oui, voilà. Ouais, ouais.
Ou jusqu'où on va?
L'empathie, c'est pas dire oui à tout. L'empathie. L'empathie, c'est que la personne, elle se sente écoutée. Mais une écoute qui soit active, quoi. C'est pas simplement tendre les oreilles. C'est écouter ce qu'il y a au fond du cœur, j'irais.
Votre actualité, récemment, on le disait en introduction, vous avez reçu le grade de lieutenant-colonel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous l'avez reçu?
Oui. Alors la gendarmerie, effectivement, donc j'y ai travaillé pendant 26 ans comme assistante de service social et responsable du département de l'Ain. Je dis toujours que ça, c'est une deuxième famille pour moi parce que c'est un milieu qui est extrêmement solidaire. On se serre les coudes et moi, je me suis toujours sentie... un peu pour plaisanter, quand j'ai pris ma retraite, je leur ai dit au début, j'étais un peu votre copine, vous m'appeliez Pause Café, en référence à la série qui avait été. Après, je suis devenue un peu votre mère et maintenant, je m'en vais avant de devenir votre grand-mère. Mais c'est vrai que je suis toujours très attachée à cette arme. Donc, je me suis engagée dans les cadets de la gendarmerie, au bureau, au moment de sa création. Et dans ce cadre-là, puisque les cadets de la gendarmerie, ce sont des jeunes à partir de 17 ans qui font une sorte d'engagement volontaire d'une année pour découvrir la gendarmerie. Et donc, dans ce cadre-là, on leur donne des vertus de civisme. Et moi, j'interviens. À un moment donné, on les emmène visiter le tribunal. Et je les accompagne dans des comparutions immédiates afin qu'ils puissent voir un petit peu comment ça se passe et ça les intéresse énormément. Et j'essaye de trouver à ce moment-là un avocat qui veut bien leur parler 5 minutes, qui puisse un peu découvrir toutes les facettes du tribunal, comment on y va, qu'est-ce qui s'y passe. Et la deuxième partie de mon intervention dans le cadre des cadets, c'est que je leur fais une intervention de groupe sur la gestion des conflits. Parce que la mission de la gendarmerie, c'est pas de tout régler avec les mains, quoi. On commence par être... Il y a énormément de formations de négociateurs, on commence par apaiser une situation. Et c'est vrai que pour un jeune, le danger, c'est de dire vous allez avoir une arme dans les mains, vous êtes dans une position toute puissance. Non, on n'est pas dans la toute puissance face à la personne en face qui de toute façon est en difficulté. Même si c'est un auteur, c'est une personne en difficulté. Donc moi, j'essaye de leur donner des bases pour que quand un conflit se produit... On commence par apaiser la personne et engager un dialogue où on reconnaît sa difficulté du moment. C'est principal, ça, c'est leur dire peut-être que vous avez agi comme ça, peut-être qu'on ne devrait pas agir comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ce qui se passe. Et c'est là qu'on peut arriver après à ce que la personne elle puisse... avoir une position qui diffère, quoi.
Finalement, Josette Besset a toujours un pied dans la gendarmerie. Elle endosse de multiples rôles, mais quel serait le fil conducteur de toutes ces missions, selon elle ?
Déjà, c'est que j'aime les gens, hein. Et puis que peut-être que je pense que dans chaque être humain, il y a toujours quelque chose de positif. Et c'est justement les aider à mieux vivre en utilisant ce qu'ils ont de positif.
Et j'aimerais vous poser une dernière question. Pour vous, ce serait quoi la définition de l'engagement ?
Oui, faire quelque chose parce qu'on se sent utile dans ce qu'on peut faire. Beaucoup de gens parlent d'argent, quoi, mais ce n'est pas l'argent qui c'est la relation qui rend heureux, ce n'est pas l'argent qu'on peut y gagner. On voit bien d'ailleurs tous les gens qui sont en burn-out dans des carrières professionnelles d'élite, ça veut dire qu'il y a un bien-être qui ne va pas, quoi. Et c'est d'abord... c'est ce que je disais aux gendarmes quand j'ai pris ma retraite. Je leur ai dit, vous me dites que je vous ai apporté, je vous en remercie, mais vous m'avez autant apporté. L'engagement, c'est un échange. C'est un enrichissement mutuel. Voilà, je dirais ça.
On remercie Josette Besset pour son témoignage et aussi pour l'éclairage qu'elle nous a donné sur les missions du délégué du procureur, qui reste un rôle parfois peu connu de la chaîne judiciaire.
Radio B, les bonnes ondes.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du magazine d'info locale qui vous engage.
En attendant, on reste à l'écoute des bonnes ondes de Radio B
sur 90 FM.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.